Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Contagion un peu sur le modèle américain, ou plutôt sur le contre-modèle américain, avec plusieurs universités concernées par les manifestations pro-palestiniennes et surtout des blocus et des blocages avec intervention des forces de l'ordre. Et puis le plus important, quelle réaction, quel sursaut ? L'affaire de la mort de Matisse devient une affaire politique avec les deux profils du mineur de 15 ans et de sa mère de 35 ans, tous deux afghans en situation régulière. Le mineur a été incarcéré, la mère a été placée sous contrôle judiciaire. On vous parlera de l'enquête, on vous parlera des réactions de l'entourage sur le profil inquiétant de la mère du suspect et évidemment du débat politique. Dans l'actualité, comment un directeur d'école qui veut expérimenter la tenue unique à l'école qu'il dirige depuis 15 ans se retrouve avec des menaces en étant ciblé pour, je cite, « islamophobie » par un communiqué ou plutôt un tract où il est écrit que ce directeur a une obsession vestimentaire et une obsession contre les musulmans, envers les musulmans. Et puis pour finir, un rapport d'experts remis aujourd'hui au président de la République préconise d'interdire, écoutez bien, l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, le téléphone portable aux moins de 11 ans, en limitant strictement l'accès les années suivantes pour les adolescents. Bonne chance à la maison. On va en parler, hein, entre le vœu pieux et la faisabilité. Il y a un monde, mais tout d'abord place au journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un rassemblement de soutien à Mathilde Panot et Rima Hassan avait lieu ce matin près des locaux de la police judiciaire à Paris. La chef des députés de la France Insoumise et la militante franco-palestinienne doivent y être entendues dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Rima Hassan dénonce, je cite, des pressions d'organisations de lobbyistes pro-israéliens. Écoutez.
Je pense que nous sommes les plus privilégiés aujourd'hui puisque nous avons une tribune politique et médiatique pour dénoncer ces atteintes qui sont portées à nos libertés fondamentales. Nous le faisons en responsabilité, mais je veux avoir une pensée pour tous les citoyens ordinaires, tous les militants, les syndicalistes, qui n'ont pas la tribune que nous avons aujourd'hui pour pouvoir dénoncer ceux qui sont victimes aujourd'hui en France. Je veux aussi dire aux organisations de lobbyistes pro-israéliens qui sûrement nous écoutent et qui sont derrière ces plaintes, qui ne nous feront pas taire. Je veux dire au gouvernement français qui a laissé faire ces pressions, qu'il ne nous fera pas taire non plus.
Pour 75% des Français, il faut suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Dans le détail, les électeurs de gauche y sont favorables à 59%, 81% pour les sympathisants de droite. À Nice, 5 personnes ont été agressées par 2 hommes qui jugeaient que les femmes portaient des jupes trop courtes. Leurs conjoints ont tenté de les défendre et la situation a ensuite dégénéré. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux, c'était ce matin sur CNews.
On s'est retrouvé lynché par ces deux individus, entouré de plusieurs témoins dans la vieille ville de Nice. Et du coup, ça a mal fini. Pour un de mes amis qui a quand même fini à l'hôpital avec de grosses ecchymoses, pour ma compagne aussi, et une jeune fille de 19 ans qui a perdu une dent et la maxillaire fracturée.
Voilà, et on a appris que les agresseurs avaient été libérés à l'issue de leur garde à vue. Dans le reste de l'actualité, pas d'écran avant l'âge de 3 ans. C'est ce que préconise un nouveau rapport qui doit être présenté à Emmanuel Macron aujourd'hui. Dans ce rapport, la commission d'experts alerte sur la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et les conséquences pour leur santé, mais aussi pour l'avenir de notre société et civilisation. Et puis enfin, les Rolling Stones sont de retour sur scène. Le groupe de rock a lancé le coup d'envoi de sa tournée Acne Diamonds, titre de son 24e album sorti en octobre dernier. Au total, 19 dates à travers les États-Unis et le Canada.
Musée.
Voilà pour les Rolling Stones qui ne bougent pas, qui ne vieillissent pas.
Et en fait, vous pouvez faire un mix entre vos deux dernières informations. Il faut autoriser les écrans quand il s'agit, évidemment, d'écouter et de regarder les Rolling Stones.
On est d'accord.
Comme ça, c'est bon pour le développement de l'enfant. Merci, Mickaël.
Sa longévité aussi.
Ah oui, sa longévité. Bonjour, merci Régis Le Sommier.
Merci.
Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction L'Omerta. Je vous montre évidemment le titre et la une du magazine. Après 2 ans d'enquête, de reportage de terrain en Ukraine, je salue également Judith Vintraub. Merci Bonjour, d'être Sonia. Avec nous. Naïma Mfadal nous accompagne. Bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Merci Philippe David d'être là également.
Avec grand plaisir.
Et évidemment Sandra Bisson, notre spécialiste Bonjour. Pour les justices. Bonjour à vous Sandra. Pour évoquer, alors il y a l'enquête dans l'affaire Matisse, il y a le débat politique, il y a ce que nos journalistes sur le terrain à Châteauroux apprennent, des témoignages que nous vous livrons toujours avec précaution évidemment, mais tout cela permet de contextualiser cette affaire. Tout d'abord, l'affaire de la mort de Matisse, je vous le disais, devient une affaire politique. Deux profils, le mineur de 15 ans et de sa mère de 37 ans, tous deux Afghans en situation régulière. Qu'en est-il et que savons-nous à l'heure actuelle, Sandra ?
Alors on sait, selon plusieurs témoins et le mis en cause lui-même, que Matisse et le suspect s'étaient déjà insultés. Voilà, ils se connaissent, ils avaient déjà eu des altercations. Ce samedi-là, il y a une nouvelle altercation. Le suspect dit qu'il a été frappé par Matisse, qu'il a reçu un coup de poing et qu'il a subi des insultes racistes. La blessure a été constatée puisqu'il lui a été délivré 3 jours d'ITT. Selon ses déclarations, c'est ça qui l'aurait amené à commettre, à revenir d'abord dans son immeuble, prendre un couteau et commettre cette agression mortelle sur Matisse en lui portant des coups de couteau dont l'un l'a atteint au cœur. Sa mère, elle est suspectée d'avoir donné des gifles à Matisse alors qu'il était déjà à terre après avoir été poignardé. Donc l'enquête, bien sûr, elle va être encore longue. L'information judiciaire commence. Le jeune homme est mis en examen pour meurtre. Il risque jusqu'à 15 ans de prison puisqu'il y a l'atténuation de la responsabilité pénale. Et puis sa mère, elle, est mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable puisqu'à ce moment-là, Matisse avait déjà été poignardée quand elle est suspectée de lui avoir donné des gifles.
On va parler dans quelques instants du profil de la mère du suspect avec Célia Barat. Je voudrais qu'on précise aussi à nos téléspectateurs et à ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux, quand on contextualise ce qui s'est passé, évidemment, rien ne justifie que cela se termine ainsi. Mais là...
Non, non, c'est juste ses déclarations.
Voilà, c'est important.
La manière dont lui s'est exprimé en garde à vue.
De savoir que ce serait donc, une affaire, un drame, plus que ça, une tragédie, un fait de société en deux temps, Sandra.
Bah, disons que oui, ils se connaissaient, donc ils s'étaient déjà pris la tête tous les deux. Là, ce jour-là, effectivement, nous, on nous distingue deux temps. D'abord, ce moment où il y a des coups, selon lui, porté par Matisse, et ensuite, lui, sa réaction, où il perd complètement pied, et effectivement, il va commettre cet acte irréparable.
On va retrouver Célia Barot, qui est à Châteauroux, et qui, depuis cette affaire, est le réceptacle de beaucoup de réactions. Les voisins, l'entourage, des deux côtés aussi, parce qu'il y a la version du suspect telle qu'elle est présentée aux enquêteurs. Et puis, Célia, il y a le profil inquiétant, peut-être c'est un euphémisme, pour qualifier l'attitude, le comportement et la personnalité de la mère du suspect.
Oui, une mère de famille qui est rentrée il y a quelques minutes, juste avant votre émission, Sonia. Elle est rentrée à son domicile puisque, comme Sandra Buisson l'a rappelé, elle est placée sous contrôle judiciaire. Elle n'est donc pas incarcérée. Elle est rentrée à son domicile et depuis hier, les habitants avec qui nous échangeons décrivent cette famille afghane comme ayant un comportement inquiétant, agressif dans ce quartier. Une riveraine qui refuse de s'exprimer face caméra de peur d'avoir des représailles nous a raconté qu'elle avait déjà vu le jeune Afghan de 15 ans avec un couteau, que souvent il menaçait les habitants de ce quartier. Il était donc régulièrement porteur d'une arme blanche et que sa personnalité avait évolué ces dernières années, qu'elle était devenue de plus en plus violente. Cette même voisine nous raconte qu'il s'agit donc d'une famille afghane composée de 5 enfants et le père est très peu autoritaire et il s'agirait là d'une mère de famille qui tient les rênes De cette famille afghane et que les garçons de cette famille n'ont peur de rien. C'est bien ces mots de cette voisine. Une voisine qui nous a fait part de son souhait de déménager suite à l'homicide de Mathis qui s'est déroulé en bas de ses fenêtres. Elle a peur pour la sécurité de ses jeunes enfants. On sent vraiment des riverains qui ont peur des représailles, qui ont peur pour leur sécurité puisque cette famille souvent les menace, les regarde très mal. Ils sont très inquiets dans ce quartier pourtant de réputation calme et tranquille, puisqu'auparavant, on nous a raconté que c'était des retraités qui habitaient dans ces bâtiments. Et depuis quelques années, de nombreuses familles afghanes ont pris possession des lieux. Nous avons pu également échanger avec l'entourage de Mathis, notamment ses collègues et son patron d'apprentissage. Ils sont encore très émus, très choqués. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra, mais ils nous décrivent un garçon très passionné par son métier, qui souhaitait être cuisinier, travailler avec son père. En tout cas, ils sont très très émus et ils nous ont évoqué l'idée d'une marche blanche, d'un hommage rendu ce samedi 4 mai, à Châteauroux pour rendre hommage à Mathis une dernière fois.
Merci beaucoup Célia Barotte en direct et en duplex de Châteauroux pour toutes ces informations. Il faut savoir que sur place, les langues se délient et que ce n'est qu'aujourd'hui, ou plus précisément depuis hier, qu'il y a des témoignages et des réactions. Sandra, est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi la mère s'est rendue coupable, en tout cas de quoi la justice la soupçonne ?
Alors la justice la soupçonne, une fois que Mathis était à terre et donc il avait été victime de coups de couteau, d'être venu et de lui avoir porté des gifles. Il va falloir voir quel était son état d'esprit au moment où elle est suspectée d'avoir fait ce geste. Et cette mère de famille de 37 ans donc est suspectée de d'avoir commis, c'est la qualification des faits, des violences volontaires sur personne vulnérable, puisqu'à ce moment-là, effectivement, Mathis luttait pour sa survie. Donc elle est placée sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations. Elle a interdiction de sortir du département de l'Indre. Elle a interdiction de contacter son fils, la famille de la victime, tous les témoins de cette affaire. Et elle doit émarger régulièrement au commissariat de Châteauroux.
Alors l'affaire est devenue hautement politique et même davantage. Il y a une réaction et je pense que nous tous, je veux dire ça c'est notre sensibilité d'être humain, un père, quelle que soit la situation, sa douleur prime et donc il faut l'écouter. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'un politique ne doit pas réagir après. Je voudrais quand même mettre en avant ce qu'a dit le père par rapport au débat politique qui est en train d'émerger et bien plus que cela. Écoutons le père de Mathis chez nos confrères de RTL.
Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent. Et même à tout, quoi. Et même Mathis. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et j'entends de tout et de rien. Donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête. Ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. Hein. Mais mélangeons pas tout. Et faites attention à tous les bords de droit, tout d'ailleurs, qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse. Et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil.
C'est ce qu'on va retenir, évidemment, c'est ce qu'il veut à l'image de ce qu'était son fils, malgré tout. Ça n'en peut pas empêcher un débat politique. Mais quand il dit « faites attention, attendez la fin de l'enquête avec ce qui se passe », est-ce que c'est des paroles qu'il faut écouter et suivre ?
C'est tout à fait respectable. On a néanmoins déjà des éléments objectifs et étayés. Je pense d'abord aux antécédents, aux précédents démêlés du meurtrier avec la justice,
du suspect
du meurtre avec la justice. Je ne crois pas qu'il y ait de doute sur le fait qu'il l'ait commis. On sait qu'il s'est rendu coupable de vol avec violence. Il a moins de 16 ans, il a été relâché dans la nature.
Parce que la justice ne permettait pas de le placer.
Voilà, parce que les lois ne permettent pas de le placer.
Les lois votées par les politiques.
Hein, exactement. Elles
tombent pas du ciel, les lois.
Donc, premier élément de questionnement politique, premier élément d'interrogation politique, est-ce qu'en changeant les règles pour la détention provisoire pour les mineurs, parce qu'en fait, c'est possible dans certaines conditions pour des durées très courtes, y compris quand on a moins de 16 ans. Est-ce qu'en changeant...
C'est pour des faits criminels, correctionnels.
Oui.
Allez-y.
C'est ce que je viens de dire.
Allez-y.
Est-ce qu'en changeant ces lois-là, on peut empêcher que ce genre de drame se reproduise. Deuxième question, est-ce qu'en arrêtant d'accueillir les Afghans, qui sont les premiers demandeurs d'asile dans notre pays, en appliquant un principe de précaution, on peut éviter la reproduction de ce drame? Toutes ces questions-là appartiennent en propre aux politiques.
Donc le débat politique est légitime. Il est tout à fait normal, eu égard déjà aux antécédents et évidemment au parcours. Après, on peut rentrer dans les détails, c'est important. Mais enfin, avec un tel background, on peut se demander aussi ce genre de questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que le débat est bien posé? Est-ce que le débat, c'est celui de l'excuse de minorité? Est-ce que le débat, c'est celui de l'immigration? Est-ce que le débat, c'est celui de la justice plus largement des mineurs
et de la violence des mineurs également, parce que des cas d'usage de couteaux et de règlement de compte entre bandes ont déjà, notamment en région parisienne les années précédentes, mené à des morts. Donc il y a une extrême violence des jeunes en ce moment. Moi, je rajouterais par rapport à ce qui vient d'être dit, deux choses. Première chose, on l'a évoqué tout à l'heure, ces bâtiments dans lesquels habite cette famille avec cinq enfants étaient autrefois des bâtiments destinés à des personnes âgées. Donc ce sont des Afghans qui ont été amenés là. Et si j'en crois Pierre Gentillet, l'avocat qui régulièrement intervient sur CNews et qui vient justement de Châteauroux, qui connaît très très bien la situation là-bas, c'est il y a eu un certain nombre d'Afghans qui ont été implantés dans le cadre d'une véritable répartition des migrants sur le territoire. Alors ceux-ci, cette famille visiblement était entre guillemets même violente mais plus intégrée que par exemple l'Afghan qui a pris un couteau à la fin du Ramadan à Bordeaux et avait tué deux Algériens qui lui était un Afghan qui était venu en 2021 juste après le retour des talibans. Mais en tout état de cause, il faut se rendre compte d'une chose, les Afghans étant, comme le rappelait Judith, les premiers demandeurs d'asile en France, qu'on est face à des populations qui ont des mœurs. Moi, je connais très bien l'Afghanistan. Je sais très bien, moi j'ai aidé des Afghans à sortir d'Afghanistan au moment du retour des talibans. Donc il y a, je les connais, ils sont en France aujourd'hui, c'est des gens qui ont reçu une éducation, notamment dans le cadre, au moment de l'occupation américaine, puisque les femmes avaient le droit d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc on est de retour dans une société archaïque, une société dans laquelle
à cause du régime des talibans,
à cause des talibans,
que l'Occident a en partie
Mais en tout état de cause, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes en Afghanistan et qu'il se passe quelque chose dans la rue, que vous volez quelque chose, la police des mœurs ou la police de Kaboul se balade avec des câbles électriques et elles attrapent les voleurs et ils prennent des coups tout de suite. Donc c'est pas du tout les mêmes mœurs qu'en France. Donc le rapport au pouvoir, et ils arrivent ici, évidemment, c'est une société beaucoup plus permissive. Sont-ils capables, ont-ils les moyens culturels, ont-ils le bagage tous pour la comprendre et pour l'accepter? Visiblement non, puisque certains veulent appliquer la charia. Je rappelais Bordeaux tout à l'heure.
Débat culturel pour vous. Je reviens quand même sur l'aspect judiciaire, parce que la bataille culturelle, elle est au long cours. Hein.
Oui, bien sûr, grand défi. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte.
Je suis d'accord, mais sur la justice, peut-être qu'on peut intervenir plus rapidement. En tout cas, c'est ce qu'a promis le Premier ministre en parlant d'atténuation sur l'excuse de minorité. On vous a révélé tout à l'heure notre sondage, regardez-le. J'insiste aussi sur les personnalités, ou en tout cas ceux qui se déclarent comme étant de gauche, qui sont largement favorables aussi. Attention, là, il s'agit purement et simplement de suspension, mais donc de ne plus appliquer pour un temps l'excuse de minorité et pas d'atténuation, comme le dit le Premier ministre.
Et en fait, on attend de savoir ce que va préciser le Premier ministre, puisque cette excuse de minorité, elle s'applique donc en dessous de 18 ans, mais elle peut être levée quand l'adolescent a entre 16 et 18 ans. C'est extrêmement rare, c'est les magistrats qui le décident, mais effectivement, c'est possible de la lever. Est-ce que le Premier ministre sous-entend qu'il veut élargir la possibilité de lever cette excuse de minorité, ou est-ce qu'il veut diminuer l'âge à laquelle on peut lever l'excuse de minorité? Ce sont des points dont on attend qu'il
précise. Sandra, avant le début de l'émission, en tout cas, le Premier ministre ne peut pas se permettre un autre discours Viry-Châtillon à Châteauroux pour dire, je rappelle les mots, hein. Oui. C'est terminé. Hein. Oui. Pas de vague terminée, la violence des mineurs,
on va. Oui. Oui. Non, mais ce qui est terrible, quand on voit le lourd passif du meurtrier présumé, 27 février, mise en cause pour vol en réunion, également lié au vol d'un portable sous la menace d'un couteau, 22 avril, donc il n'y a même pas 10 jours. Il avait été mis en examen pour vol aggravé avec violence dans une affaire liée au vol d'un portable sous la menace d'un couteau dans le cadre d'un guet-apens tendu via un site de rencontre. Il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Excusez-moi, le couteau, ça fait partie des ustensiles qu'on peut porter avec soi, comme une montre, une gourmette, un bracelet ou un collier.
Alors juste, je reprécise, et encore une fois, c'est la loi après.
Oui, mais excusez-moi, quand une code des lois sont nulles ou c'est les races, il faut les changer.
Encore une fois, c'est pas du tout mon propos. Moi, ce que je veux expliquer aux téléspectateurs, c'est que la détention provisoire n'est applicable pour les mineurs de moins de 16 ans que pour des faits criminels et pour les faits. Qui relèvent d'une peine correctionnelle, elle est limitée à certaines situations, notamment quand l'individu est parti de son centre éducatif fermé, quand il a violé de manière répétée et particulièrement grave son contrôle judiciaire. Voici l'état des lois. Les magistrats n'ont pas fait d'erreur.
Je n'ai pas dit que les magistrats aient fait des erreurs. Je rappelle qu'il y a des lois qui sont totalement inadaptées, voire même scélérates dans ce cas de figure, et il faut les changer.
Bien. Moi, je m'interroge quand même, et c'est une vraie interrogation. Xavier Hofer, qui est un spécialiste de ces questions, nous parlait hier des attaques au couteau. Depuis quelques années, nous n'avons plus... C'est très compliqué de comptabiliser ce qui est, parce qu'il peut y avoir
disparition de l'observatoire de la délinquance.
Exactement. Donc une question se pose, je ne sais pas si elle est culturelle, si c'est un terrible phénomène de mode, mais sur des faits de société, mais en tous les cas, nous n'avons même pas les outils pour nourrir le débat. Naïma Mfadel, est-ce que quand le Rassemblement national dit que c'est la faute à la politique migratoire du gouvernement, mais imaginons une immigration zéro. Ces personnes ont leurs papiers en situation régulière. Qui, aujourd'hui au pouvoir, peut dire que ça n'arrivera pas demain ?
Écoutez, je pense que tout le monde le dit maintenant, qu'il y a un problème aussi d'afflux massif de personnes qui viennent de pays qui n'ont absolument pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, etc., et qui viennent avec leur bagage culturel, social, en termes de civilité, qui n'ont pas le même rapport homme-femme. C'est une réalité, ce n'est pas stigmatiser qui que ce soit, et qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'accueillir et d'intégrer, parce que tout simplement, l'afflux est tel qu'on n'a pas les moyens. Tout à l'heure, Régis parlait de la répartition qui est faite aujourd'hui dans des communes d'une manière groupée de ces personnes-là. C'est 50 à 100 personnes, dont aussi des mineurs non accompagnés aujourd'hui. Et on les met dans ces communes sans aucun accompagnement en termes d'insertion sociale, professionnelle, etc. Donc comment voulez-vous faire à un moment, on est aussi dans le choc des civilisations. Et à un moment, quand on ne contraint pas, quand on ne conditionne pas, on ne peut pas accueillir sans montrer à un moment aux gens la voie et surtout en leur disant... En France, voici les règles.
Il y a l'intégration, c'est-à-dire épouser ou l'assimilation, qu'on voulait épouser les mœurs d'un pays aggravé. Et il y a le fait de tuer. Y a-t-il besoin d'être intégré ou assimilé pour ne pas tuer ? C'est ça notre débat ?
Le problème, c'est que si vous venez de contrées où il y a énormément de violence, comme ce que décrivait tout à l'heure Régis, il les connaît beaucoup mieux que nous. Comment voulez-vous faire ? C'est-à-dire que quand vous avez comme possibilité que cette violence, que de vous défendre avec des couteaux, etc., et où le couteau est un... Dans certaines contrées, c'est un prolongement aussi de soi, puisque les gens le portent. Ils le portent même.
L'Afghanistan est un pays, ça fait 40 ans.
Et d'ailleurs, l'Afghanistan,
sont en guerre,
ils le portent.
Et c'est des gens souvent, pour avoir des agriculteurs dans ma famille, ils ont le couteau, couteau avec eux, mais ils le sortent pas comme ça.
Non, mais excusez-moi, Philippe.
Mais si vous voulez,
vous faites
sur les Afghans.
Non, mais excusez-moi.
Attendez.
Si je peux.
Parlons.
Même les rapports hommes et femmes. Quand vous avez dans des contrées une invisibilité des femmes.
Parlons pour certains de population, et je dis bien à chaque fois certains qui viennent de pays
oui,
en guerre,
certains,
avec
évidemment.
Des images terribles, avec quand ils ont vécu
des violences,
des femmes qui ont été lapidées dans des stades,
exactement.
Etc. Donc la question c'est comment un pays comme la France ou d'autres peut changer dans l'imaginaire collectif, non pas un tel comportement, mais des images qui sont imprégnées. Est-ce que c'est de notre ressort ?
Non, c'est pas de notre ressort, mais la vraie question c'est qui on accueille chez nous.
Voilà.
C'est le problème. On a été très généreux, par exemple, quand les talibans sont revenus au pouvoir, parce qu'en effet, il y avait des gens qui étaient menacés de mort. Mais au-delà de cette générosité, il y a eu aussi beaucoup d'Afghans. Je me souviens d'avoir eu des conversations avec certains Afghans qui me disaient de toute façon, même si on n'a pas le visa ou si on n'arrive pas à être accueilli par la France, on viendra à pied. Mais je leur disais, mais vous allez terminer sous les ponts de Paris, vous allez et vous n'aurez rien, personne ne va vous aider. Et c'est pas grave, on viendra
pour
quand
certains,
même.
Certains, parfois, il vaut mieux les ponts de Paris que les coups de plus que des talibans.
Peut-être,
malheureusement.
Et pas que les talibans, parce que les talibans sont revenus au pouvoir, mais vous avez avait aussi des seigneurs de guerre qui ont exercé des véritables dictates sur des territoires entiers, ayant le droit de vie et de mort, de viol sur leur population. Si vous voulez,
ce sont principalement des hommes alors.
Oui, ce sont oui, parce que c'est souvent ce des hommes qui
et des, font le, et notamment des mineurs.
Mais moi, j'ai même rencontré des Afghans qui ont passé du temps en France, n'ont pas réussi à s'intégrer, ils sont revenus en Afghanistan. J'ai même rencontré des Afghans qui parlaient français, qui avaient appris le français.
En fait, le problème, c'est
si vous voulez, il y a des va-et-vient.
Juste après la morale, pardonnez-moi, voilà. Et vous aurez l'occasion d'y revenir, parce qu'on va aussi aller du côté de la police, la PJ de Paris, où nous attend Noémie Schulz pour les convocations, dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Mathilde Panot, Rima Hassan, vous nous direz si cette judiciarisation de la vie politique... est-ce qu'elles doivent se justifier ou est-ce que vous dénoncez une dangereuse dérive ? Une courte pause et on se retrouve. La suite du programme, on va évidemment continuer à évoquer le choc et l'émotion après la mort de Matisse. Et puis je poserai la question à nos invités. Est-ce une dangereuse judiciarisation du débat politique ou est-ce que les élus de la France insoumise doivent se justifier sur leurs propos et leurs positions concernant le Hamas ? On en parle après vos titres, cher Mickaël.
Un incendie a fait au moins 3 morts dans le 2e arrondissement de Paris. Il s'est déclaré la nuit dernière dans un immeuble du boulevard des Italiens. Il pourrait s'agir d'une fuite de gaz. Le jeune Afghan de 15 ans, suspecté d'avoir tué Matisse, a été mis en examen pour meurtre. Sa mère a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable, suspecté d'avoir asséné plusieurs gifles à la victime alors qu'il venait d'être poignardé. Et puis Charles III reprend ses activités publiques aujourd'hui. Vous le voyez, il est arrivé avec son épouse, la reine Camilla, dans une clinique de traitement du cancer à Londres. Une visite pour tenter de démystifier la peur autour de cette maladie qui frappe directement la famille royale.
Est-ce une trop grande judiciarisation du débat politique ou est-ce une convocation par la police totalement justifiée eu égard aux propos de la France insoumise sur le Hamas ? En tous les cas, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, ou encore Rima Hassan, numéro 7 sur la liste de la France insoumise aux européennes, ont été entendues ce matin dans le cadre d'une enquête pour, je cite, « apologie de terrorisme ». Noémie Schulz, vous êtes devant le siège de la PJ à Paris. Les deux femmes ont été entendues ce matin dans le cadre d'une enquête pour « apologie ». De terrorisme. Elles se sont rendues, on les a vues y entrer pour être entendues par les enquêteurs.
Alors, Rima Hassan a été entendue, mais dans un autre commissariat du 17e arrondissement. Elle est sortie il y a quelques minutes et Mathilde Panot, elle vient d'arriver ici, vous l'avez dit, au siège de la police judiciaire pour être entendue par les enquêteurs de la brigade criminelle. Toutes deux étaient convoquées. Elles avaient rendu publiques ces convocations, une audition libre dans le cadre d'une enquête, vous l'avez dit, ouverte pour apologie du terrorisme. Ce matin, elles avaient toutes les deux participé à un rassemblement de soutien organisé à proximité du siège donc de la police judiciaire. Mathilde Panot qui cet après-midi va devoir s'expliquer sur un communiqué publié le jour même des attaques du Hamas le 7 octobre. Un communiqué publié par son groupe parlementaire. Rima Hassan, elle a été entendue pour notamment avoir dit dans une interview qu'il était vrai que le Hamas mène une action légitime. Alors ce qu'il est important de préciser, c'est que ces auditions ne présagent en rien des suites que le parquet de Paris va décider de donner ou pas à ces affaires. À ce stade, elle ne sont pas poursuivies, Mathilde Panot et Rima Hassan. Elles sont entendues dans le cadre de cette enquête et effectivement, on saura peut-être dans la journée ou dans les jours qui viennent si le parquet de Paris décide de les poursuivre, éventuellement de les renvoyer devant la justice ou si un classement sans suite est possible. C'est en tout cas ce qu'espère. Et ce qu'a fait savoir Rima Hassan et son avocat à la sortie tout à l'heure du commissariat. Ce qu'il faut bien comprendre, me précisait un juriste, c'est que des propos peuvent être choquants, peuvent être moralement répréhensibles, mais ne pas forcément tomber sous le coup de la loi. La qualification d'apologie de terrorisme est délicate, surtout que dans certains cas, la liberté d'expression est particulièrement protégée. Et c'est le cas du débat politique, de l'expression syndicale et des humoristes.
Merci Noémie Schulz. Alors vous allez écouter la réaction de Mathilde Panot qui dénonce, mais sans surprise, une fuite en avant autoritaire, une sorte de procès politique. Et j'allais dire, c'est du pain presque béni. Moi je me demande en quoi ce n'est pas tout cela un piège, au contraire, dont profite la France insoumise. Écoutez Mathilde Panot.
Ce qui se produit en France est une fuite en avant autoritaire sans précédent. Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques pour un communiqué de presse du groupe, c'est-à-dire dans le cadre de ses activités parlementaires, pour une convocation aussi inouïe qu'apologie du terrorisme.
Comment vous réagissez? Vous avez vu ce qu'elle dit, hein, pour ses opinions politiques, dit-elle. Elle fait référence au fameux communiqué, c'est très important, qui a été pondu quelques heures après l'attaque terrible du 7 octobre.
Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison de dire que cette judiciarisation profite à la France insoumise. Elle sert la France insoumise, elle lui fournit l'auréole de martyr après laquelle la France insoumise court et que Jean-Luc Mélenchon aime tellement arborer. Moi, je ne pense pas en plus que pénalement il y ait ensuite mise en examen parce que ça me paraît appartenir. Alors bon, je prends un risque en disant ça, mais pour moi, à la limite, les propos de Rima Hassan appelant au soulèvement serait beaucoup plus susceptible d'intéresser la justice, parce que là vous essayez de provoquer un mouvement. Mais le fond de commerce de la France insoumise, c'est l'islamophobie, c'est de faire croire que les musulmans en France sont victimes d'un racisme d'État en raison de leur confession. Et donc, et c'est aussi ce que disaient les étudiants soi-disant pro-palestiniens, en fait anti-israéliens, qui ont occupé Sciences Po et la Sorbonne, tout ce qui va dans le sens de la répression de la liberté d'expression, alors qu'il n'y a pas incitation directe à la violence, à mon avis, est contre-productif.
Alors, est-ce que ce genre de convocation va nourrir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une possible contagion sur le modèle américain ou le contre-modèle américain des mouvements pro-palestiniens ou plutôt anti-israéliens? C'est très important de le préciser parce que je
les
rappelle
anti-israéliens
tous les jours que le soutien aux civils palestiniens est légitime et que ce n'est pas le cœur de notre débat. Véritablement, sinon on inverse les choses. Mais blocus, blocage, intervention des forces de l'ordre, écoutez, dans tout ce, j'allais dire, cette jungle parfois d'inversion de tout, écoutez cet étudiant, Sciences Po Paris, qui était chez nous ce matin sur CNews, chez Pascal Praud, écoutez ce qu'il dit de la pression et puis de contexte et ce qu'est devenu Sciences Po Paris.
Aujourd'hui, Sciences Po est dans une situation d'une extraordinaire gravité à cause justement de cette minorité étudiante qui parle beaucoup, qui est très bruyante et qui est en train en fait de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc en fait, on est menacé aujourd'hui par cette minorité. Et puis vous avez en face une direction qui ne dit rien, qui cède tout. On pourrait même se demander si on a encore une direction, parce que voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Sciences Po. Et en réalité, j'ai connu deux directions, deux administrations provisoires. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. Et donc en fait, tout est permis. Et aujourd'hui, des étudiants comme moi qui veulent simplement travailler, on est livrés à nous-mêmes.
La direction qui cède, hier, lors de grande interview, Manuel Valls a dit que c'était le Munich de la pensée. Et avant que vous n'interveniez, écoutez ce matin, quand même, la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau. Mais elle, c'est plus que... J'allais dire, c'est... Non, je ne vais pas qualifier, mais écoutez, les propos, les mots choisis, c'est véritablement la retour, même pas en arrière. Hein, tout est effacé, écoutez-moi.
Alors, sur en dehors de la fac, ça ne fait pas partie de l'université. Et donc, les manifestations, les expressions, etc., je veux dire, on peut être pour, on peut être contre le sujet, mais ça fait partie de la démocratie, sur lequel, moi, je me suis positionnée clairement et sur lequel nous devons faire tenir une certaine forme de fermeté. Mmh. C'est effectivement lorsqu'il y a blocage dans les universités, ce n'est pas un débat cadré, et lorsqu'il y a un blocage qui dérive, qui empêche les autres, et quand parfois, il y a une escalade au niveau de la violence. Et cette réponse-là, c'est non.
C'est Manuel Valls qui a parlé de Munich. Que Chamberlain et Daladier étaient courageux, finalement, quand on regarde un peu l'histoire avec du recul.
Je vous confirme, en fait. Daladier, historiquement, quelque chose l'était.
Oui, non, mais alors, vous avez parlé notamment... Non, c'est une boutade, évidemment.
J'ai bien compris. Mais c'était moins inversé par rapport aux propos de Valérie Ayé. Mais là, on est dans un private joke un peu compliqué.
Bien sûr. Non, une chose importante.
On sort de là.
Judith a parlé très justement, et vous avez parlé très justement, de l'appel au soulèvement. Oui. Mais Mathilde Panot, hier, a retweeté une image, une affiche. Couleur de la Palestine, hein, je vous la montre, c'est pas de la poudre de perlimpinpin pour faire du Emmanuel Macron. Invasion imminente de Rafah, les étudiants de la Sorbonne bloquent la fac, la révolution est en route, rejoignez le camp de
la justice. Il n'y a rien de nouveau. Hein, la fille,
la révolution.
Mais veut la révolution plutôt que l'élection.
Non mais,
oui, mais ils ont personne en face.
Excusez-moi, la révolution, le soulèvement, la révolution, non, c'est mais... de l'appel à la sédition, oui ou non?
Exactement.
Et l'appel à la sédition, c'est interdit par la loi aux dernières nouvelles.
Sonia, déjà, la première des choses par rapport à leur convocation là, pour apologie du terrorisme, ils ne cessent de piétiner la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté sacrée aussi de la presse. Regardez ce qui s'est passé avec Émeric Caron. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des cris d'orfraie parce que, justement, ils sont rattrapés par ce qu'ils dénoncent. La deuxième chose, concernant l'embrasement de ces universités, bien sûr, il y a une grosse manipulation, une instrumentalisation. Excusez-moi, Sonia, mais qui ils ont en face d'eux? Ils ont une ministre qui revient, qui retourne sa veste aujourd'hui, qui s'est couché,
vous touchez au cœur du débat,
qui a félicité le directeur.
Alors qu'est-ce que vous faites? Alors vous au pouvoir, est-ce que vous envoyez comme les camps, dans les campus américains, les forces de l'ordre, et est-ce que vous allez vers des
affrontements? Vous connaissez un peu
200 arrestations.
Oui.
Attention,
il y a 14 000 étudiants. Il y a seulement 40 qui ont occupé les locaux. À l'extérieur, même cet étudiant l'a dit, puisqu'il est étudiant, il a regardé ceux qui étaient là. Il a dit une cinquantaine d'étudiants de Sciences Po qui étaient rejoints avec des groupuscules de gauche et avec des membres de LFI et des députés représentants de la nation étaient aussi là pour souffler sur les braises. Est-ce normal?
Déjà, moi, je voudrais un petit peu sur ce qui se passe sur les occupations diverses, que ce soit à Sciences Po qu'à la Sorbonne. C'est pas la première fois, ni dans l'histoire, que l'extrême gauche occupe les facs. C'est arrivé à de nombreuses fois. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, ça arrivait tout le temps. J'étais à Tolbiac, il y avait des blocus, des AG en permanence.
Et c'était assez musclé, déjà
très violent. Là, en l'occurrence,
mais il y avait des députés.
Attendez.
Non, mais attendez.
Avec une impunité totale déjà.
Déjà, oui, ça c'est vrai. Voilà. C'était assez terrible, Tolbiac, justement. Ouais. Mais bon, peu importe.
Ce que je veux dire, la Sorbonne, jamais connu ça.
Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est raisonnable et est-ce que c'est d'abord légal de leur donner quelque part apologie du terrorisme sur le communiqué de Mathilde Panot? C'est-à-dire qu'en fait, vous leur servez sur un plateau.
Et ce que
dit Philippe sur l'affiche Le soulèvement, la révolution. Allez, on y va. Parce qu'en plus, on est accusé, on est mis au banc, on est traîné devant la police, on est des élus. Alors le problème aussi que se pose pour Mathilde Panot, c'est quand même elle est présidente de groupe, elle a l'immunité parlementaire. Enfin, il y a quand même des problèmes techniques et légaux qui est derrière cette histoire. Maintenant, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça remet en selle la France insoumise qui, dans la campagne des européennes, était un petit peu
voilà. Vous avez entièrement raison.
Et là, c'est reparti. Voilà.
Bon, là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, il me semble qu'il y a quand même deux questions qui se posent. Un, la question politique. Comment Gabriel Attal, qui dit « je ne tolérerai pas, no passara, il n'y aura pas de violation de la loi », peut supporter...
Tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares, tu bloques.
Peut supporter.
Tu n'es pas...
Peut supporter qu'à quelques heures d'intervalle, sa ministre de l'enseignement supérieur dise le contraire en soutenant... un accord absolument indécent.
L'accord de la honte.
L'accord de la honte, parce qu'au passage, que demande la revendication que ces militants anti-israéliens? Remettre en cause les partenariats de Sciences Po avec les facs israéliennes.
Dans cette parole,
pour quelqu'un qui s'est déjà baladé dans une fac israélienne, c'est plus gaucho que n'importe quelle fac française, y compris Tolbiac, au Ternion, qui est l'équivalent de Polytechnique. À Haïfa, vous avez des affiches sur le mur à affiches appelant la destruction d'Israël. Bon, ça ne pose pas de problème.
Mais attendez,
c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de juifs, je ne pourrais pas les qualifier, qui sont antisionistes.
Il y a des étudiants arabes israéliens qui ont tout à fait le droit de s'exprimer, déjà, et puis parce que la politique de Netanyahou est extrêmement contestée par le milieu estudiantin.
Alain Finkielkraut, vous avez vu hier dans le Figaro, rapporte, pardonnez-moi, les propos d'un professeur et il les partage, qui affirme que selon lui, le problème, c'est Netanyahou.
Mais exactement, mais le deuxième jour, le lendemain du 7 octobre, vous aviez Gideon Levy, qui est un journaliste star du journal Haaretz, qui faisait son édito en disant « Le problème, c'est Netanyahou ».
Voilà.
Oui, ça, mais ça, vous pouvez le dire quand vous avez condamné très fermement et sans un gramme, rien d'ambiguïté, le Hamas.
Mais c'est ça le problème, Sonia.
Alors attendez, je voudrais vous faire écouter, pardonnez-moi, ce jeune homme, parce que sa parole est assez rare et qu'il est venu, j'allais dire...
Et qu'il est extrêmement courageux.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc écoutons-le à ce sujet.
On a été tellement indigné avec certains camarades de l'école de droit du communiqué qu'on a vu tomber vendredi soir après ce qui s'est passé toute la journée de vendredi, qu'on s'est dit qu'on devait réagir spontanément. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole. Honnêtement, je sais le risque que je prends parce qu'après je sais le harcèlement qui va en découler, etc. Mais ça me semble important parce que sinon après la réputation de cette école, elle va être salie par ces minorités qui ne travaillent pas, par ces minorités qui vont salir tout le monde et qui vont nous empêcher, nous, de pouvoir aspirer aux carrières qu'on envie. Visage.
Mais souvent, les minorités font l'histoire.
Absolument.
La d'ailleurs, grande et la petite.
Rappelez-vous, à l'époque des bolcheviks, c'était pas majoritaire en Russie. Ils sont restés au pouvoir pendant 70 ans. Mais c'est quand même une réalité. Non, pour revenir sur ce qu'a dit Judith, vous avez, et vous, votre duo, qui disait Attal roule un peu des mécaniques, vous me passerez l'expression, mais tout de suite, la ministre capitule. Mais ça a un nom. Ça s'appelle le en même temps.
Ouais.
Et le en même temps, ça a prouver toutes ses limites,
c'est
et plus
tenable.
Ça va, moins c'est
ça
tenable.
Explose
parce
à
que là, on... mais exactement, le en même temps explose au visage de tout le monde. Mmh. Et on voit ce que c'est, on peut dire blanc à lundi, à midi, noir à midi 5, vert à midi 10 et rouge à midi et quart, avec le en
mais
même
moi,
temps.
Moi j'ai envie de savoir ce qu'il pense vraiment. Parce que monsieur Attal, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Je veux savoir quelle est la véritable ligne. Qu'il y en ait 2, 10, eh ben c'est pas bien quand on dirige on conduit le bateau France, mais quelle est celle qui,
à
la
fin... Il est forcé d'être dans une position d'autorité. Il vient d'être nommé, voilà. Il a des ambitions politiques. Forcément, il sent très bien que la France a besoin, et la France réclame de la sécurité, la France réclame de l'autorité. Donc évidemment, il ne peut pas faire autrement. Maintenant, son logiciel interne, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le sens, justement, dans ce sens-là.
Les titres avec vous, Michael.
Nouveau record du nombre de détenus dans les prisons en France. Au 1er avril 2024, il y avait 77 450 personnes incarcérées, soit 4 370 de plus que l'année précédente. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré. Charles III en visite dans une clinique de Londres pour une clinique de traitement des cancers. Le roi d'Angleterre reprend ses activités publiques aujourd'hui en compagnie de son épouse, la reine Camilla. Une visite pour tenter de démystifier la peur autour de cette maladie qui frappe directement la famille royale. Et puis les Rolling Stones de retour sur scène. Le groupe de rock a lancé le coup d'envoi de sa tournée Acne Diamonds, titre de son 24e album sorti en octobre dernier. Au total, 19 dates sont prévues à travers les États-Unis et le Canada.
Longuement sur l'affaire Matisse, alors que la mère de suspect, qui je vous le rappelle est placée sous contrôle judiciaire, a reconnu des coups et de l'enquête va tenter de savoir quand est-ce qu'elle a porté ces coups justement à Matisse quand il était en situation de très grande vulnérabilité et fragilité, alors qu'il a été poignardé par le fils qui est de cette femme qui est pour l'instant le suspect. Le sujet de Chloé Tarka sur les dernières informations.
Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Matisse. L'agresseur aurait reçu le même jour un coup de poing de la part de la victime. Pris par la colère, il se serait vengé en lui assénant plusieurs coups de couteau avant de s'enfuir.
Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit.
Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. Dans le quartier, la femme est connue pour son agressivité.
Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas, Matisse était... je discutais avec Matisse. La maman du petit jeune qui est passé à l'acte, elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il l'avait regardé, puis elle lui avait dit ouais, toi, tourne ta tronche, arrête de nous regarder. Puis elle m'avait dit ouais, toi, sale p***, sale p***. Enfin voilà, il y avait vraiment une tension.
Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre à l'encontre du mineur et pour violence volontaire à l'encontre de la mère.
Voilà pour ce énième fait de société. On verra quelle sera la réaction du gouvernement, du Premier ministre. Est-ce qu'il va vraiment engager le débat sur la levée de l'excuse de minorité? Je vous rappelle, et là je pense que c'est sa véritable conviction, il n'est pas pour la levée totale, il est pour certaines atténuations. Mais est-ce que, s'il vous plaît, quand même si vous levez complètement l'excuse de minorité, est-ce que ces personnes qui sont capables de poignarder quelqu'un et ensuite une mère qui semble-t-il a frappé quelqu'un à terre, est-ce qu'ils vont avoir peur?
Laïma a donné un début d'explication tout à l'heure en parlant de cette politique de répartition autoritaire où les gens, les réfugiés, sont dispersés dans des villes petites et moyennes. Et vous disiez, laisser à l'abandon, c'est pire que ça. Les seuls qui s'en occupent, ce sont des associations pro-migrants qui considèrent que ces familles-là ont absolument le droit de reconstituer leur mode de vie qu'elles avaient dans leur pays d'origine. Célia Barotte, votre reporter, a décrit une famille qui sème la terreur et qui sème la terreur depuis plusieurs années, pas depuis trois jours.
Et qui la pratique.
Et personne ne fait rien.
Et qui la pratique un assassinat en famille, pratiquement. En famille. Parce que ce qu'il va falloir déterminer, c'est si la mère, en donnant des coups, n'a pas porté assistance à personne en danger, et si ça n'a pas provoqué justement la mort. Enfin, il y a quand même là une circonstance aggravante, à mon sens.
On va y revenir, et effectivement, Célia, notre reporter sur place, qui reçoit beaucoup de témoignages de l'entourage, et effectivement, le contexte, la personnalité, le comportement de cette famille totalement nocive, dangereuse, est mis en avant par plusieurs personnes. Nous allons y revenir. Nous parlerons également de ce directeur d'école, là encore, j'allais dire incroyable, ce n'est pas le mot, mais c'est édifiant, qui tout simplement pour avoir voulu expérimenter la tenue unique dans son école, ça fait 15 ans qu'il est directeur d'école, est accusé de, entre guillemets, d'islamophobie. Et puis nous parlerons d'écran. Alors là, j'adore ce rapport. Il faut interdire l'écran pour les enfants avant 3 ans, interdire les portables avant 11 ans, alors sans internet. Hein. Ensuite, à 15 ans, OK pour les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux éthiques, vous me direz lesquels, et vous me direz surtout comment on fait.
TikTok. Avant 3 ans, ça doit être possible de faire 2-3 choses.
Oui, est-ce que TikTok... Si on n'a pas d'autorité sur un enfant de moins de 3 ans, déjà, il faut se poser les questions de ses capacités. Non,
mais c'est un rapport qui a été fait quand même.
Oh, vous êtes sévère, là.
Bah oui, non, mais j'ai eu 2 enfants, donc je sais ce que c'est.
Oui, mais vous êtes un heureux grand-père en plus.
En plus,
et j'imagine que là, le papy gâteau laisse
tout faire. Et on m'a toujours dit que mes enfants étaient très bien éduqués. Mais
moi, le mien, il est très bien éduqué, mais je vis ce problème des 11 ans et de l'accès aux réseaux sociaux.
Témoignage en direct sur CNews. Tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News. Merci de votre fidélité. Beaucoup de sujets à soumettre à nos invités. Puis cette question, comment un directeur d'école qui voulait simplement, et qui veut toujours d'ailleurs, expérimenter la tenue unique dans son établissement qu'il dirige depuis 15 ans, se retrouve avec des menaces en étant ciblé pour, je cite, islamophobie par un communiqué ou plutôt un tract où il est écrit que ce directeur a une obsession vestimentaire et une obsession envers les musulmans. Nous parlerons également de ce rapport d'experts remis aujourd'hui qui nous fait un peu sourire, remis au président de la République, qui préconise d'interdire sourire, non pas pour, attention, les conclusions, mais pour la faisabilité, qui préconise d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, téléphone portable au moins de 11 ans, en limitant strictement l'accès les années suivantes pour les adolescents. Vous suivez ? Vous nous direz, parents autour de la table et chez vous, si c'est possible. Je salue Sophie Audugé. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Sophie, déléguée générale de SOS Éducation. Et avant de commencer ce débat, de poursuivre, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Mathilde Panot et Rima Hassan, convoquées dans les locaux de la police judiciaire à Paris, la chef des députés de la France Insoumise et la militante franco-palestinienne ont été entendues. Rima Hassan s'est exprimée à la sortie de cette audition. Aujourd'hui, je suis une cible, dit-elle. Je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, moi, je suis une cible pour ma parole politique sur le sujet palestinien et absolument pas. Et ce que je veux dire, c'est que ces organisations, en fait, défendent les intérêts étrangers israéliens et non pas les intérêts français. D'ailleurs, ils nuisent aux intérêts français puisqu'ils portent atteinte à nos libertés d'expression, qui sont des libertés qui font quand même socle dans notre société française. Et je veux aussi, à travers cette procédure, défendre ce qui me tient particulièrement à cœur.
Le jeune Afghan de 15 ans, suspecté d'avoir tué Matisse, a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. Sa mère a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable, suspecté d'avoir asséné plusieurs gifles à la victime alors qu'il venait d'être poignardé. Écoutez ce témoin présent au moment des faits.
Je discute avec Matisse, la maman du petit jeune qui est passé à l'acte. Elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre. Il s'était retourné, il l'avait regardé et puis elle lui avait dit « toi... » Enfin, tourne ta tronche, arrête de nous regarder. Puis on m'avait dit, ouais, toi, sale c***. Enfin, voilà, il y avait vraiment une tension.
Et face à ces drames qui se multiplient et qui touchent la jeunesse, 75% des Français estiment qu'il faut suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Dans le détail, les électeurs de gauche y sont favorables à 59%, 81% pour les sympathisants de droite. Dans l'actualité également, Charles III en visite dans une clinique de traitement des cancers à Londres. Vous le voyez sur ces images en direct devant cette clinique. Le roi d'Angleterre qui reprend ses activités publiques aujourd'hui accompagné de son épouse, la reine Camilla. Il a rencontré des médecins et des patients. Voilà donc pour l'actualité à 13h sur CNews. Sonia, place au débat, présent en compagnie de vos invités.
Merci Mickaël. On va rester juste un moment encore sur cette image avec le roi Charles et Camilla, avec cette apparition. Je vous rappelle que le roi est atteint aussi d'un, je le dis aussi par rapport à Kate Middleton, d'un cancer et qu'il veut en faire un combat pour aider évidemment tous ceux qui sont touchés par la maladie, aussi avec, n'oublions jamais, les entourages autour de ces personnes qui souffrent tout autant, non pas physiquement, mais moralement. Et donc, il veut faire sien ce combat. D'ailleurs, on note que beaucoup de personnalités, bien avant lui, se sont engagées. Je pense à Bernard Tapie et d'autres dans différents domaines, en disant « voilà ce que je vis, voilà ce que j'endure et ce qui dure ». Souvent, ça peut être une aide importante pour de nombreuses personnes et familles. Donc voilà pour cette image. On revient à nos sujets dans l'actualité. Je voudrais vraiment qu'on insiste sur ce directeur d'école. Il voulait simplement, parce que je le dis, écouter vraiment d'où est parti tout cela. Et aujourd'hui, il est menacé. Et quand on parle d'un directeur d'établissement menacé, évidemment, nous revient en tête ce qui s'est passé par rapport à Samuel Paty ou encore à Dominique Bernard. Il voulait simplement expérimenter la tenue unique à l'école. C'est un directeur, il dirige son école depuis 15 ans. Ce n'est pas un jeune homme, hein. C'est quelqu'un d'expérimenté. Il se retrouve avec des menaces en étant ciblé pour, je cite, entre beaucoup de guillemets, islamophobie, par un communiqué ou plutôt un tract. Il ne sait pas qui est à l'origine de ce tract, qui affirme qu'il a une obsession pour les vêtements et en particulier des musulmans. Il lui est aussi reproché de participer, ou en tout cas d'avoir répondu dans le journal Causeur. Vous allez l'écouter dans quelques instants, ce directeur. Je voudrais quand même préciser qu'il a... Il est sans protection policière. Il a déposé 2 plaintes et il n'a pas de soutien, me semble-t-il, hein, des ministres. On va voir la réaction de Nicole Belloubet qui a réagi par rapport à une interpellation de Marion Maréchal. Mais tout d'abord, le sujet pour les faits de Charles Baget.
Je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans.
La faute à ce tract diffusé par un groupe appelé Collectif de défense de l'école publique de Neuilly-sur-Marne.
L'obsession vestimentaire de M. Bourrez cachait une obsession anti-musulman. Pour quelle raison s'est-il exprimé dans un magazine classé par la presse à l'extrême droite? Ce même directeur d'école s'est allié avec le maire de la ville pour faire une propagande pour le port de l'uniforme dans les écoles primaires.
Le tract qui vise M. Bourrez est un tract odieux. On qualifie d'obsession anti-musulman la participation à une expérimentation très officielle et voulue par les plus hautes autorités de l'État.
Une centaine d'établissements volontaires vont expérimenter dès la rentrée prochaine l'uniforme à l'école. Mais aujourd'hui, ce directeur, qui souhaite faire partie de cette expérimentation, se sent en danger.
Là, je suis en arrêt maladie, je vais prendre quelques jours pour souffler. On ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord sur un projet ministériel, hein, dire tout et n'importe quoi et tout de suite afficher la personne en face comme étant islamophobe et puis s'en débarrasser, quoi.
La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a indiqué qu'un signalement avait été fait au procureur et qu'une protection fonctionnelle avait été accordée au directeur. Ce dernier a porté plainte pour diffamation aggravée.
Il est en arrêt maladie. Vous l'écouterez tout à l'heure parce qu'il s'est exprimé notamment sur notre antenne. En réalité, il veut non pas se protéger, mais surtout protéger les enfants, les élèves de l'établissement. Alors on pourrait dire que c'est une forme, non pas de sa part, attention, mais c'est une forme de démission, c'est-à-dire qu'il est besoin de se mettre en arrêt maladie, Sophie Audugé, pour protéger ceux qui sont à l'école le temps en fait que ça passe, mais ces choses-là ne passent pas, malheureusement, on l'a vu de manière terrible avec l'affaire Samuel Paty. C'est plus surprenant tout cela, ce n'est plus surprenant aujourd'hui.
Ben, oui, non, c'est pas. Je dirais qu'on a au moins un cas, voire 2 cas par semaine pour quelque chose qui habituellement pouvait arriver une fois par an ou une fois tous les deux ans. La réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de nos gouvernants. Évidemment, l'annonce de Gabriel Attal sur la baïa, tout le monde a trouvé ça formidable. Dès le départ, on était un peu seuls, d'ailleurs, Sonia, ensemble, à dire « Non, mais attendez, c'est un symbole. Le fond du problème n'est pas celui-ci. » Et évidemment que ça n'arrangera rien. Et ça n'a rien arrangé. On n'a jamais eu autant d'atteintes à la laïcité. On n'a jamais eu autant de situations où des enseignants étaient menacés de mort, où des parents attaquaient directement des enfants. Que cette année, la situation est extrêmement grave. Elle concerne toutes les écoles. Là, on est, vous le rappeliez, en primaire. Enfin, je veux dire, ce qui est extrêmement. Là encore, si vous voulez, les chiffres sont têtus. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, et le rapport récent sénatorial démontrait qu'il y a aujourd'hui une violence endémique en France, qu'il y a cette situation de violence dès la primaire de manière extrêmement grave, et on continue à faire des mesurettes. Alors on discute de l'éducation à la sexualité, enfin bien courageux l'enseignant qui fera de l'éducation à la sexualité plaisir tel que veut le mettre en place l'éducation nationale, dans des établissements comme cela, si vous voulez, parce qu'on n'est plus là dans le port de l'uniforme. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est aussi important, c'est de dire que l'école n'appartient plus à la République, hein, ce n'est plus un territoire protégé. La preuve, c'est que quand on a une décision...
La parole est forte, là.
Écoutez, vous avez un Premier ministre qui est passé, qui était ministre de l'Éducation nationale, Premier ministre qui dit on met en place le port de l'uniforme en thèse. Vous avez un directeur d'école et le maire qui disent ben nous, on est volontaires et on les traite d'islamophobes et on vient leur reprocher d'avoir parlé dans un magazine qui est causeur. Avant-hier, on a un journaliste qui est licencié de la télévision publique parce qu'il a parlé de... Enfin, je veux dire, non, je pense qu'il faut que les querelles des hommes... des adultes s'organisent à l'extérieur de l'école, mais qu'à l'école, on reprenne le pouvoir du savoir et de la protection des enfants. Ils ne devraient faire que ça.
Autrefois, quand l'école était un sanctuaire, simplement sur l'aspect politique, regardez, première réaction, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'elle dit. Accusée d'islamophobie et donc en danger de mort pour avoir voulu expérimenter l'uniforme à l'école. Donc Nicolas Borès, directeur d'une école... Alors, c'est passé un peu vite. Est-ce qu'on peut avoir la suite, la fin? Voilà. Appel au secours. Faut-il un nouveau Samuel Paty pour que Nicole Belloubet réagisse? Réaction justement de Nicole Belloubet. La voici. La ministre, on va le voir s'afficher. La ministre de l'Éducation nationale. Madame Marion Maréchal, je n'ai pas attendu votre suite à intérêt électoral pour agir avec fermeté, déconnaissance des faits. Un signalement au procureur a été fait. La protection, attention alors, regardez bien, fonctionnelle, accordée et la sécurité du directeur renforcée en lien avec les forces de l'ordre. Ça n'a rien à voir. Attention, sécurité fonctionnelle, c'est pas des détails. Hein. Et la protection, là, qui devrait lui être attribuée, n'a rien à voir, un policier. C'est pas du tout la même chose. J'allais dire, fonctionnel, c'est la moindre des choses. C'est le niveau minimum de la protection, quand même.
Il y a une chose, quand même, sur laquelle il faut s'interroger, c'est l'auteur de ce tract. Oui. On ne voit pas dans la démarche conduite par Mme Belloubet l'idée d'essayer de trouver qui est responsable de mettre un visage et que cette personne soit interrogée. Parce que là, visiblement, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas écrire en français. On a vu qu'il s'était argumenté, qu'on accusait le directeur d'être islamophobe. Donc, c'est quelqu'un, il y a une association derrière, il y a des gens et on doit pouvoir les trouver et on doit pouvoir leur parler.
Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Écoutez-le, c'était chez Jean-Marc Morandini tout à l'heure.
Il prétexte de certains écrits que je peux de temps en temps envoyer à des médias, notamment Causeur, qu'ils publient sur donc le site causeur.fr, et donc ils font des raccourcis, mais qu'on connaît bien maintenant, hein, raccourcis extrémistes, extrême droite, anti-musulmans. Je ne sais pas ce communiqué où il a été diffusé, quel réseau l'a propagé. Quel fou furieux, radicalisé, déséquilibré va s'en emparer pour éventuellement chercher à venger je ne sais quelle histoire. Donc là, c'est très très problématique.
En fait, ce directeur a collaboré, je ne sais pas comment il faut le dire, a publié quelques articles pour Causeur et Front Populaire que je retrouvais avec des opinions affirmées sur la baïa, qui est tout à fait son droit.
Vous les avez lues, en fait.
J'ai lu. Il a le droit en tant que...
Dans la... Oui. Dans l'un de ses articles, notamment, Nicolas Bourrèze met en cause une partie des enseignants,
voilà, c'est ça.
Oui, mais
c'est
en regrettant qu'ils ne défendent pas. Alors, eux
je me suis fait la même remarque que vous. Donc le tract est bien organisé et bien dirigé.
Mais le tract,
pour ça, Sonia, on sait de toute façon que la lutte pour la laïcité à l'école, pour la neutralité. Est combattu de l'intérieur par exactement. Une partie, je souligne,
et la
une
partie, partie Jean-Pierre Robin.
Des enseignants qui, par exemple, oui. Je peux essayer de faire la même phrase, des enseignants qui, quand Gabriel Attal a interdit le port de l'abaya, ont dit on n'est pas là pour faire les flics. Du vêtement.
Sophie Audugé, on a reçu ici même, et lors de la grande interview, Jean-Pierre Aubin. C'est lui-même, il dit, les problèmes de laïcité posés par les élèves, les parents, mais il dit aussi qu'au sein de l'éducation et parmi des professeurs, et souvent c'est une fracture générationnelle, eux-mêmes sont parfois porte, pardonnez-moi, le fer, justement, et donnent des coups de canif à cette laïcité. Donc ça, c'est quand même au sein de l'éducation nationale.
Mais bien sûr, enfin, je veux dire, là encore, je suis désolée, mais les chiffres sont têtus. Hein. Les moins de 30 ans sont favorables à une forme de laïcité qui permettrait le port à la fois de vêtements dits religieux, des menus différenciés à la cantine, etc. C'est une réalité. Aujourd'hui, l'islamo-gauchisme qu'on voit à Sciences Po, si vous voulez, il est également très infiltré à l'éducation nationale. Et vous avez raison, ce tract était écrit exactement comme l'ensemble des tracts de certains syndicats enseignants. Enfin, je veux dire, voilà. C'est exactement la...
Justement, je pense qu'il faut qualifier les choses et vraiment bien prendre le soin de dire convenablement, si je peux me permettre, parce que tout de suite, ça a été, c'est les musulmans qui sont derrière ce tract, c'est anti-musulmans, ils sont contre l'uniforme. Moi, je suis tombée de ma chaise, je vous le dis franchement. Jamais entendu un musulman dire que... Et surtout que là, on est en primaire, hein. Donc, j'ai jamais entendu un musulman dire « je suis contre l'uniforme », au contraire, même dans les sondages qui ont été faits.
Les Français de toute confession peuvent être pour ou contre.
Mais justement, dans les sondages qui ont été faits, c'est tout Français confondu qui avait dit qu'ils étaient pour. Et rappelons-nous que c'est des enseignants qui ont aussi manifesté contre la circulaire, contre la abeille. Donc on voit bien qu'il y a derrière ce communiqué certainement des personnes qui veulent instrumentaliser et qui veulent faire porter le chapeau à des musulmans.
La question maintenant, plus important, c'est comment on le protège. Hein.
Parce oui.
Qui porte le chapeau
Bien sûr. Après, il est stigmatisé, il a un visage, il est connu. Sûr. Et donc, il est forcément menacé. Maintenant, moi, il y a une chose qui me trouble vraiment derrière ce tract. C'est que ce tract s'attaque, et par rapport à la réaction, je trouve la réaction de Mme Belloubet très légère, s'attaque à une décision gouvernementale. C'est une décision de faire cette tenue vestimentaire. C'est pas un établissement, c'est pas un chef d'établissement qui a dit, voilà, c'est encouragé par le ministère, c'est voulu, et un certain nombre donc en fait, on a véritablement des gens qui, sous prétexte d'islamophobie, s'attaquent en fait à une décision gouvernementale, donc à la République.
Philippe David.
Mais c'est vrai que ce collectif de défense de l'école publique, ça pose quand même question.
Mais on ne sait pas
surtout
qui est derrière.
C'est des enfants du... Oui, voilà, c'est bien ça le problème. Surtout que ce sont des enfants du primaire, et en général, les filles en primaire ne sont pas voilées. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus.
Pas d'abaïa non plus, oui.
On est entièrement d'accord. Mais ce qui pose question quand même...
Et moi, ce qui m'inquiète... non, vous avez raison d'essayer de voir qui est derrière. Mais moi, c'est l'urgence, c'est...
Oui, effectivement, c'est que l'État soit là.
Imaginez, il nous regarde, il est chez lui. Pardonnez-moi, il est en arrêt maladie. Nick, on parle de protection fonctionnelle. Je ne sais pas, on est dans le pays où Samuel Paty a été égorgé.
Oui,
protégez-le.
Mais protection fonctionnelle, c'est que l'avocat, en fait.
Oui, c'est ça.
Vraie question. Pour moi, il y a deux choses. Déjà, le tweet de Mme Belloubet est quand même, on ne peut plus léger. Mais il y a deux choses. Premièrement, le protéger, ça évidemment, le mettre sous protection policière.
Ben,
mais deuxièmement, chercher qui a fait ce tract.
Vous avez raison.
Parce que ça, comme dirait le proverbe, il se fait cite qui prodeste, hein, qui profite le crime. Donc il faudrait savoir qui a fait ce tract. Et on aura peut-être des surprises d'ailleurs, parce que c'est bien rédigé, etc. Ça va être intéressant.
Vous avez entièrement raison. On va continuer à évoquer cela. On parlera aussi de ce qu'a promis le garde des Sceaux, c'est-à-dire des sanctions plus fermes en cas de pression communautaire. Je ne savais même pas que c'était pas c'était pas le cas. Moi, je pensais que quand il y a des circonstances comme cela, c'est évident que les sanctions sont plus fermes dans le cas de l'affaire Shamsindine ou Samara. Donc, c'est-à-dire qu'on peut encore faire plus et qu'on attend malheureusement des faits de société pour l'affaire Shamsindine dramatique, Samara qui a été quand même violentée pour réagir. Les titres et puis on en parle.
Un incendie a fait au moins 3 morts dans le 2e arrondissement de Paris. Il s'est déclaré la nuit dernière dans un immeuble du boulevard des Italiens. Il pourrait s'agir d'une fuite de gaz. À Londres, au moins 5 personnes blessées dans une attaque à l'épée. Un homme de 36 ans a été arrêté ce matin après avoir attaqué des passants. Un incident qui, selon la police, ne semble pas lié au terrorisme. Et puis vers une nouvelle trêve à Gaza, les négociations semblent avoir avancé hier entre le Hamas et Israël. Le mouvement terroriste devrait donner sa réponse dans la journée. Une trêve qui doit être accompagnée d'une libération d'otages israéliens.
Merci à vous, Mickaël. On va évidemment suivre cette situation internationale. Pour l'heure, je voudrais qu'on se rende de nouveau à Châteauroux parce que le portrait robot, si je puis dire, de la mère du suspect est en train de s'affiner, avec d'ailleurs un entourage, une famille qui est, en tous les cas d'après les témoignages d'un quartier, d'un entourage connu pour sa nocivité, pour sa dangerosité, qui sème la terreur dans un quartier, effectivement. Est-ce que c'est ce que vous nous confirmez, Célia Barod, des différents témoignages qui vous parviennent depuis déjà quelques jours, quelques heures ?
Oui, depuis hier, Sonia, les habitants avec qui nous échangeons décrivent une famille afghane qui a un comportement très inquiétant, un comportement aussi violent. Certains ont peur de représailles s'ils s'adressent aux journalistes. Ils ont peur puisque la mère de ce jeune garçon qui a tué Matisse est rentrée ce matin à son domicile. On a senti des riverains très apeurés, encore très choqués par le drame. Et un ami de Matisse nous a bien confirmé que les deux garçons se connaissaient bien avant les faits, bien avant le drame, et qu'ils avaient déjà eu des altercations. Je vous propose de l'écouter.
On jouait dans la même équipe de foot, donc à Beaulieu, à l'Étoile, ça s'appelle. Et ouais, on jouait ensemble. Donc les entraînements, c'était les lundis, mercredis, vendredis. Donc de temps en temps, on le voyait très gentil, poli, il nous serrait tous la main, un peu timide. Mais normal, parce que on est deux équipes et de temps en temps, il venait jouer avec nous. Donc, on le mettait dans le groupe, mais rien à dire. C'était pas un gamin à problème, pas à ma connaissance en tout cas.
Donc dans le quartier Sonia ici, les habitants parlent d'une famille avec 5 enfants et avec 2 garçons qui poseraient problème. Une voisine dit qu'elle a vu l'évolution du comportement de ce jeune Afghan de 15 ans puisqu'il lui arrivait parfois de se balader dans ce quartier avec un couteau à la main, un comportement très inquiétant. Et puis il y a éventuellement cette idée de rendre hommage à Matisse ce week-end, une idée qui n'est pas exclue. Une marche blanche sera sûrement organisée dans cette commune encore sous l'émotion.
Merci Célia Barot, et c'est vrai qu'on est c'est un cas d'école mais tragique, c'est-à-dire c'est le cocktail vraiment où il y a tous les mots à Maux, c'est-à-dire l'impunité et le laxisme, l'autorité parentale ou ce qu'il en reste avec une mère qui participe quand même aux méfaits, et puis l'immigration avec la bataille culturelle.
Quand un pays ne conditionne pas l'arrivée de ces migrants, n'est pas exigeant, comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Il n'y a aucun suivi, il sème effectivement le chaos, il menace tout le monde.
On n'a pas les moyens de faire ça. Mais la loi du nombre s'impose, vous avez raison.
Vous avez raison, la loi du nombre s'impose, mais aussi on a aujourd'hui même des personnes qui sont installées depuis très longtemps et qui foutent le boxon, excusez-moi, dans un quartier et qu'on n'arrive pas à déloger. Et si on les déloge, si on y arrive après moult procédures, eh bien, on devra les reloger. On marche sur la tête.
Vous avez raison de dire on devra les reloger parce qu'on a eu un cas avec Madame Portelli dans sa région où effectivement, exactement. Eh ben, ils ont été exclus de leur logement social, expulsés. Et la question, c'est
mais le reloger est venu chez Pascal Pro dire. Non, on ne va pas les reloger parce que vous comprenez, les Français ne le comprendraient pas. Et en fait, après, Madame Portelli, a fait une déclaration, elle a dit si, on a été obligé de les reloger.
Il y a donc une obligation de relogement quand il y a expulsion.
Exactement, donc la solidarité nationale continue à être de mise.
Quand on parle des lois idiotes, on en parlait tout à l'heure, reloger les familles de voyous. Non mais on est chez les dingues. Non mais franchement, on pourrait rebaptiser une émission de télé « On est chez les dingues ». Parce que moi j'ai l'impression de vivre dans un asile à ciel ouvert. Les types font régner la terreur dans un quartier, les retraités partent. Alors excusez-moi, mais les retraités qui partent, ça, c'est quoi ?
On va accepter que des familles de voyous venus d'Afghanistan ou d'ailleurs, ou ce serait une famille française qui mettrait la terreur, je dirais qu'il faut la mettre en prison, sans aucune hésitation. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'on attend pour les expulser? On me dira, oui, mais l'Afghanistan, c'est un pays en guerre. Est-ce que vous pensez que les parents du petit Timothy, poignardé par un Afghan à 19 ans, ils y pensent?
C'est un mot, c'est la peur.
Mais oui, mais
c'est la
parce qu'après, il y a un tel niveau de lâcheté au plus haut niveau de l'État depuis des années,
il y a la non-application des lois.
Et maintenant, moi, ce qui fait peur en tant que citoyenne, c'est qu'à un moment, avec cet enchaînement de faits de société, quelle sera un jour la réaction? C'est ça ce qui me fait le plus peur pour notre pays.
Parce mais ça, on est bien d'accord.
Rappelez-vous, à un moment.
Mais on a même vu des cas, pour poursuivre ce que disait Philippe, d'un immeuble, je crois que c'était dans le 18e arrondissement, où une personne sous OQTF foutait le bordel dans l'immeuble, la copropriété a porté plainte, les voisins ont essayé de l'expulser, et il n'était pas, on l'a pas expulsé, mais sous OQTF.
Pas d'autres exemples, parce qu'il y en a malheureusement.
Mais j'en ai un complètement fou, un type se fait cambrioler, il arrive à ceinturer un de ses cambrioleurs, le temps que les forces de l'ordre arrivent, il a été plus condamné que son cambrioleur. Vous pouvez vérifier.
Pour violence sur cambrioleur, ça dépend.
Absolument. Séquestration. Il ne l'a même pas tapé. Oui. Il l'a immobilisé. Je le connais parce que j'en avais parlé à ce micro.
Je pourrais pas réagir là.
On est chez les dingues. Voilà un type d'émission.
Non. On essaye quand même de garder raison et de trouver des solutions sur le plan judiciaire, sur le plan de la bataille culturelle. Ça, il faut. Moi, j'ai peur.
Vous avez raison. C'est la migration aujourd'hui, parce que vraiment, je travaille sur
ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, immigration zéro?
Non, ça va pas résoudre. Non, mais aujourd'hui, il faut le temps d'insérer, d'intégrer. Par exemple, les droits d'asile, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que vous imaginez, vous avez par exemple 30 000, je crois, Afghans. Est-ce que toutes ces personnes-là demandent le droit d'asile?
Michel Barnier avait proposé, par exemple, une sorte de moratoire. Le temps qu'on reprenne des esprits pour imaginer une vraie politique d'intégration et d'assimilation. Michel Barnier, pourquoi je le cite? Parce que ce n'est pas connu comme étant le plus extrémiste de tous. Voilà. Alors, le rapport sur les écrans. Comment on fait? Dites-moi comment on fait. Parce que moi, j'ai à peu près 15 ans, vous le savez tous, jamais je me laisserai enlever le téléphone.
Jamais
et l'écran.
De la vie d'ailleurs. Hein.
Jamais. Pour vous suivre, pour savoir évidemment ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est important, c'est un vrai sujet. Il en va de l'éducation, de la construction aussi morale, psychologique et bien plus que ça. On va s'y arrêter. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous aurons un témoignage exclusif sur les écrans et les enfants de Régis Le Sommier dans quelques instants. Il n'en peut plus. Il veut tout dire.
Ce qui se passe à la maison.
Oui, ce qui se passe à la maison. C'est pas mal comme titre d'émission.
Oui, c'est. Si on peut faire profiter.
Bon, alors, moins légèrement, vous écouterez la prophétie ou en tous les cas la mise en garde du ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis qui a prévenu sur la montée de l'islamisme. Et alors, c'est incroyable ce qu'il dit. Vous le verrez. Non, mais je ne dis pas. On l'écoutera tout à l'heure. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
Le jeune Afghan de 15 ans suspecté d'avoir tué Matisse a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. Sa mère a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Charles III en visite dans une clinique de traitement des cancers à Londres. Vous le voyez, il est arrivé tout à l'heure accompagné de son épouse, la reine Camilla. Le roi d'Angleterre reprend donc ses activités publiques aujourd'hui. Il rencontre actuellement des médecins et des patients. Et puis 150 nouveaux mots vont faire leur entrée dans le Petit Larousse. La nouvelle édition doit paraître le 22 mai prochain. Parmi les nouveautés, on retrouve trottinettiste, platisme ou encore masculinisme.
Ah non, pas trottinettiste.
Trottinettiste.
Bon, j'essaie de deviner, c'est...
Trottinette.
Merci, madame Panel. Non, c'est pas possible, vraiment.
Trottinettiste.
Mais on peut créer un collectif contre les trottinettistes, le nom, la pratique, l'état d'esprit.
Vous voulez dire que les académiciens pédalent dans la choucroute?
Il paraît, parce que c'est pas parce que je suis pas là le vendredi que je ne regarde pas ce qui se passe. Ah oui. On a utilisé mon nom à des fins de citation.
Exactement.
Et j'étais témoin. Olé, olé. Il y a eu plusieurs milliers de téléspectateurs qui ont été témoins avec vous. Ça se répète ou ça s'oublie?
Oh, je ne sais pas. Non, moi j'assume totalement. Georges Clémenceau avait dit il y a un peu plus d'un siècle. On voyait les événements à Sciences Po, donnez-moi 40 trous du cul, je vous fais une académie française. J'ai dit, moi, un siècle plus tard, donnez-moi 500 et je vous fais Sciences Po Paris. Je l'ai dit vendredi, je le répète le mardi, j'assume totalement, il n'y a pas de problème. Mais vous en voulez une très bonne de Clémenceau.
Ah oui, allez-y.
Au moment où on parlait de la force de dissuasion nucléaire dans le débat sur la défense européenne, Clémenceau avait dit « Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair, et trois, c'est déjà trop. »
Ah non, mais
alors,
attendez,
je vous laisse imaginer, à 27, ça va être rock'n'roll.
Écoutez, mais exactement. Et avec ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la dissuasion, si je puis dire, partagée, oui. On tombe à pic. Oui. Et pas un cheveu dans la soupe.
Absolument.
Et bon, ni sur le caillou. Allez, on continue. Non, on va être sérieux.
Soyez agréable, vous de parler de cheveux avec moi. Oui, les écrans.
Chez les sommiers. Alors d'abord, on va... Qu'est-ce qui se passe? C'est un rapport écrit par des experts qui a été remis au président de la République. Je vous laisse le découvrir tel que présenté, résumé par Sarah Varni. On en parle juste après.
C'est un rapport qui alerte sur l'exposition des enfants aux écrans et ses effets négatifs. Les experts parlent notamment de troubles du sommeil, de sédentarité qui favorisent l'obésité ou encore de problèmes de myopie. Autre élément pointé du doigt, les réseaux sociaux. La commission estime qu'ils favoriseraient des risques de dépression ou d'anxiété chez les plus vulnérables et alerte sur l'exposition des enfants à des contenus pornographiques et violents. Pour reprendre le contrôle, les experts proposent une série de restrictions. Ils appellent à empêcher tout usage des écrans pour les enfants de moins de 3 ans et fortement limiter l'accès pour les 3 à 6 ans avec des contenus éducatifs et accompagnés par un adulte. La commission propose de limiter autant que possible l'usage des téléphones portables et téléviseurs dans les maternités et d'interdire les écrans dans les crèches et classes de maternelle. Pour ce qui est du téléphone portable, le rapport préconise de ne l'autoriser qu'à partir de 11 ans via un téléphone sans internet. À partir de 13 ans, les experts proposent de donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux, puis d'ouvrir cet accès à partir de 15 ans uniquement au réseau dit éthique. Face aux stratégies de captation des acteurs économiques, le groupe d'experts appelle les utilisateurs à mieux paramétrer les fonctionnalités des applications et le contrôle parental.
Votre témoignage nous intéresse. D'abord les enfants, quel âge ?
Alors, j'ai un fils, moi, qui a 11 ans et une fille qui a 8 mois. Alors, c'est intéressant parce que ça rentre vraiment dans les deux catégories qui ont été décrites. C'est-à-dire, je suis avec... et c'est assez stupéfiant de voir comment un bébé de 8 mois qui commence à ramper un petit peu, aller partout dans la maison, dès qu'il y a un téléphone portable ou un écran allumé, est immédiatement... attiré vers cet écran. Donc, on a pris le principe de ne pas l'exposer jusqu'à 3 ans. Donc, on essaie de faire en sorte que la télé soit pas allumée quand elle est là. Mais il y a une attraction, ça c'est clair. Ensuite, la question sur celui de 11 ans. Ah. Celui de 11 ans, ben, il a déjà, il a papa et maman qui ont un téléphone. Donc, quand on veut lui retirer le sien, il dit « mais vous aussi ». Vous êtes tout le temps sur vos portables. Ça, c'est aussi notre faute. Et puis, ce qu'on remarque, c'est qu'on est obligé de déployer, et ça force les parents à faire quelque chose, des trésors d'ingéniosité et d'invention pour faire des choses en famille, plutôt que de se laisser aller à la facilité, c'est-à-dire se dire, on va le laisser 1 heure, 2 heures. Alors, on peut limiter le temps aussi. Il a 1 heure et demie par jour d'accès, mais en tout état de cause, il y a quand même quelque chose qui va vers de la dépendance. Il y a des demandes de plus en plus. On essaie de restreindre, on essaie de faire en sorte qu'il n'ait pas accès aux data, par exemple. Ils y arrivent quand même parce qu'ils sont nés avec ça.
Bien sûr.
Et on a beau, je vois ce qu'il y a derrière puisque je le vis derrière ce que propose le gouvernement, mais en fait, en réalité, je pense que c'est de l'ordre des parents qui aujourd'hui doivent redoubler de vigilance, doivent être attentifs et je vous dis extrêmement créatifs pour dire on va faire quelque chose qui sort du portable.
Mais avec
ou des
vous,
écrans.
J'imagine qu'il y a beaucoup de possibilités de créativité.
Oui.
Sophie Audugé, je lis dans le rapport, les auteurs affirment que les industriels, de manière générale, mais pas tous, qui fabriquent ces écrans, se fichent du sujet de la protection des enfants quand on leur en parle. Je ne sais pas si aussi ils doivent être. Partie prenante de l'après, mais est-ce que là, toutes ces préconisations sont vraiment, de votre point de vue, vraiment réalistes et réalisables ?
Alors déjà, vous voudriez dire que le gouvernement vient de découvrir que les industriels sont là pour faire de l'argent et pour pas s'occuper de la protection des enfants. On avance doucement, mais on avance quand même. C'est pas nouveau, je vous avais emmené la fabrique du crétin digital de Demurger, qui est bien connue, qui a déjà plus de 6 ans. Je rappelle qu'en 2014, François Hollande avait fait un plan numérique qui avait coûté 2,4 milliards d'euros, qui avait été d'ailleurs fortement critiqué par la Cour des comptes, qui avait dénoncé un coût exorbitant. L'enjeu était de dire à l'époque qu'en fait, il y avait une fracture sociale qui était la fracture du numérique et que les enfants des milieux les moins favorisés avaient moins accès au numérique, ce qui était complètement faux.
C'est faux, oui.
On s'est rendu compte, voilà, c'était absolument faux. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour mettre encore plus d'écrans dans les mains d'encore plus d'enfants et si possible les enfants des milieux les moins favorisés, alors que toutes les études montraient le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont dans les familles des milieux les plus aisés qu'on gère le plus et avec plus de rigueur.
On protège les enfants.
Absolument. La consommation d'écran, etc. Dans son ouvrage, M. Desmurger disait déjà qu'entre 2 et 8 ans, c'était en gros entre un tiers et un quart du temps de veille qui était consacré et perdu dans des écrans, ce qui amenait à faire une équivalence. En fait, ça correspondrait à perdre en gros 7 ans d'année scolaire d'apprentissage. Et pour reprendre un exemple que vous évoquiez tout à l'heure, une donnée aussi qui est importante, qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'absence d'interaction quotidienne avant un an dans la relation au jeu des enfants provoque un retard de développement socio-émotionnel de 2 années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'accompagnez pas l'enfant dans un environnement d'interaction, de stimulation, évidemment où les écrans n'ont absolument pas leur place, les enfants partent dans la vie avec un retard cognitif et émotionnel majeur. On ne parle pas de quelques mois, ça se compte en plusieurs années. Donc là, effectivement, je suis très contente, mais c'est encore un rapport, un énième rapport. Oui. Il y avait déjà une loi qui avait été proposée, je crois, par la députée Caroline Janvier en mars 2023, déjà, qui disait exactement la même chose. La réalité, c'est qu'effectivement, on connaît très bien les risques, qui sont des risques sur les apprentissages, des risques de développement cognitif, des risques de sommeil, des risques de myopie. Enfin, je veux dire, c'est tout ça.
Et de sociopathie.
Tout est très, très bien documenté. Là, toute cette documentation, c'est presque avant 6 ans. D'accord. Enfin, vous voyez, l'urgence de la situation.
Vous avez raison. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que c'est à... Je ne sais pas quand fera l'État. Le président de la République. Est-ce que c'est à l'État, quand même?
Alors, l'État n'a pas à entrer dans les familles pour éduquer les enfants. Alors, ça, c'est aussi une autre dérive très importante qu'on constate dans ce gouvernement-là. C'est-à-dire que, parallèlement à ça...
Faites du sport, enlevez les écrans, mangez...
Dès la 6e, c'est-à-dire des enfants qui ont 10 ou 11 ans, on leur colle... On dit il faut pas mettre de téléphone, sauf qu'ils ont des groupes WhatsApp pour avoir les cours et les leçons jusqu'à 20h, des fois, les week-ends, etc. Les profs utilisent du numérique en permanence, et c'est ce qu'expliquait également Michel Demurger à l'époque, c'est-à-dire qu'ils utilisent le numérique, mais ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'intérêt de compréhension et d'apprentissage sur le technologique. C'est-à-dire qu'on baisse le niveau en mathématiques, on baisse le niveau en technologique et on devient finalement, enfin, on fait de nos enfants crétin digital, c'est-à-dire des jeunes qui consomment de l'information vite sans avoir de capacité à raisonner. Donc, je dirais que la première action que devrait faire l'État, c'est d'abord de régler les problèmes avec les industriels et de légiférer à ce niveau-là, mais de ne pas rentrer
nous sommes
les familles.
Moi, je vais
d'informer effectivement les familles. On reçoit une tonne d'informations qui ne sert à rien à l'école tous les 4 matins. Par contre, on ne reçoit pas une information sur le sommeil et la consommation d'écran, ce qui pourrait être fait dans toutes les familles par le fameux carnet de correspondance qu'on a. Et puis, l'autre élément important, c'est peut-être d'interdire les écrans et les téléphones vraiment à l'école. Pour le coup, tout le monde aurait un bénéfice, à la fois en termes d'apprentissage et à la fois dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour ce qui est de notre cas, nous, on est pour l'interdire jusqu'au lycée, malgré certaines réactions de
jusqu'au
nos
lycée.
Enfants respectifs.
Oui. Jusqu'au lycée.
Ah, oui,
mais ce qui est terrible, c'est
l'école
l'abandon,
n'a pas à être...
l'abandon du livre.
Oui,
quand on a le téléphone, on ne lit plus.
Ce rapport est le bienvenu et je pense que justement l'État peut s'en mêler de ça parce que l'État finance notamment ce qu'on appelle
les
centres
socioculturels. Il va s'installer sur votre lit dans la chambre à coucher.
Les allocations familiales financent les centres socioculturels où il y en a partout et notamment dans les quartiers populaires. Et nous, on est ici plutôt avertis, initiés. On peut effectivement protéger nos enfants, mais il y a des personnes qui ne savent pas. Et moi, je trouve très bien que les conseillers en vie sociale et familiale, notamment dans ces centres socioculturels, puissent faire un travail de sensibilisation aux familles. D'autant plus que moi, je fais partie, Sophie, quand j'étais déléguée du préfet, on avait dit, nous, à ce moment-là, on a dit, mais arrêtez, c'est un délire. Au contraire, dans les quartiers populaires, chez les familles les plus modestes, c'est là où on trouve... plusieurs écrans de télé et souvent même des téléphones avec
dit-elle,
internet,
avec
etc.
un écran sous les yeux, alors qu'elle est déjà dans la petite lucarne.
Non, mais je pense que vraiment c'est très important parce que.
Mais nous sommes d'accord, nous sommes d'accord.
L'exemple que je vous ai donné de l'enfant qui a eu un énorme retard, la maman, elle ne savait pas.
Je suis elle pensait pas mal faire.
Philippe.
Ah, mais Sonia, oui. L'état dans la chambre à coucher, ça va peut-être venir.
Ah bah, c'est un peu le cas, ça l'a été. Attendez, mais, sur
rappelez-vous les propos de Sandrine Rousseau qui fallait voir les tâches ménagères si elles étaient bien réparties au sein du ménage. Vous rappelez cette phrase, donc ça va peut-être venir. Moi, je vais vous avouer, je n'en peux plus de l'État qui vient s'occuper de tout. Alors déjà, quand on a des enfants, moi les miens, ils sont grands, hein, bientôt 32 et bientôt 29. Quand ils sont nés, Internet n'existait pas, mais c'est arrivé assez rapidement. Ben, y a une chose qui s'appelle l'autorité, qui s'appelle papa, qui s'appelle maman, et qui disent, ben, écoute, là maintenant, à cette heure-là, Internet, c'est terminé, tu vas au lit, basta, au revoir. Et si les parents ne sont pas capables de faire ça, ben, excusez-moi, mais c'est qu'il y a un problème.
Non, mais excusez-moi. Il faut accompagner les familles, oui, je regrette. On a un maillage dans notre pays.
Mais l'État nous.
Il y a des familles qui ne savent pas. Justement, tout à l'heure, on parlait de
l'État nous
forcément une négociation à un moment.
Non, mais voilà, bien sûr, bon. Mais vous pouvez. Mais c'est tout l'accompagnement qu'on met en place. Régis, moi je l'ai fait quand j'étais directrice des centres sociaux.
Mais l'État nous, je n'en peux plus.
J'ai mis en place aussi des groupes de paroles autour de ces questions-là et aussi d'ateliers. Justement, pour que les enfants et les mamans et les enfants puissent jouer ensemble.
Je vais venir voir à la maison comment ça se passe.
Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, excusez-moi, l'État va aller dans les foyers pour dire on utilise les écrans comme ça, mais il n'est pas capable de faire régner l'ordre dans la rue.
Avant les foyers, il y a l'école.
Oui, il y a l'école aussi.
Le rôle de l'État de sortir,
à l'école, mais pas au foyer.
Les écrans des écoles.
Bon, deux choses. Je voudrais terminer sur ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Je voudrais apporter une précision importante dans l'affaire Matisse. L'enquête avance, donc on a des informations au fur et à mesure. Le parquet, semble-t-il, contredit les éléments selon lesquels il y aurait eu des insultes de la part de Matisse. Donc, c'est très, très important.
Très important.
Ah oui. Donc, c'est très important parce qu'aussi, il en va... C'est très important,
du souvenir
tout simplement, de tout, de la mémoire de Matisse, pour ses parents, d'abord pour aussi la réalité de l'avancement de l'enquête. Donc à cette heure-ci, voilà un petit peu ce que dit le parquet. On va rester prudent, on va attendre aussi que l'enquête se poursuive, mais c'est important par rapport parfois à un récit médiatique aussi qui est tenu. Alors, la prophétie. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a prévenu depuis un certain temps sur la montée de l'islamisme. Mais voilà ce que dit précisément Abdullah Ben Zayed. Il dénonce en quelque sorte une Europe, écoutez bien, qui va exporter l'islam radical.
Oui.
Écoutons-le.
Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe.
Coming out of Europe because of lack...
En raison de l'absence de prise de décision.
Decision making.
De la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance.
Très important ce qui est dit, oui.
Très important parce que les Émirats arabes unis sont l'un des premiers pays à avoir véritablement bouclé leurs radicaux, et en particulier les frères musulmans.
Avec des méthodes qui ne peuvent pas être...
Qui sont les leurs.
Qui sont les leurs. Mais en tout cas, du coup, ils peuvent dire aujourd'hui, oui, en effet, moi je reviens par exemple de Bosnie-Herzégovine, où je suis allé faire un reportage, je peux vous dire qu'en Bosnie-Herzégovine, c'est un foyer de djihadistes. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de... Donc en Europe, il y a parmi... Et en la Belgique, n'en parlons pas.
C'est-à-dire qu'il dit que...
Oui, bien sûr.
Les flux vont... quelque part s'inverser, il parle d'une inversion, d'un retournement de situation où les radicaux, les profils les plus dangereux passeront peut-être par des filières pour venir de l'autre côté et de la Méditerranée aussi, ils vont au proche, au Moyen-Orient, et que de par notre laxisme et notre méconnaissance, dit-il aussi, sur l'islam de manière générale, on va produire...
Nous créons un danger pour eux.
Mais que dit l'Algérien, voilà le sens sale, l'écrivain algérien, ça fait des années... Il nous alerte sur les conséquences de notre aveuglement, de notre déni, de notre laxisme.
Sans parler que l'Algérie a connu la guerre civile à cause de ça.
Avec une période d'une noirceur terrible et des milliers de victimes. Je vous remercie, ce sont des sujets qui sont difficiles. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Merci Sophie Audugé et à vous tous, Naïma Fadel, Philippe David, Judith Vintraub et Régis Sommier. Juste après les titres, vous réfléchissez à une citation
si vous voulez,
de bonne tenue.
J'en ai des titres, je les fais toujours, mais en off.
Je ne veux pas tout raconter à nos téléspectateurs. À vous pour les titres, cher Mickaël.
Un incendie a fait au moins 3 morts dans le 2e arrondissement de Paris. Il s'est déclaré la nuit dernière dans un immeuble du boulevard des Italiens. Il pourrait s'agir d'une fuite de gaz. Nouveau record du nombre de détenus dans les prisons en France. Au 1er avril 2024, il y avait 77 450 personnes incarcérées, soit 4 370 de plus que l'année précédente. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré. Et puis les Rolling Stones, de retour sur scène. Le groupe de rock a lancé le coup d'envoi de sa tournée Acne Diamonds, titre de son 24e album sorti en octobre dernier. Au total, 19 dates à travers les États-Unis et le Canada. Là, c'est le principe.
Comme pour les citations, j'espère qu'elle est de bonne tenue.
Une de bonne tenue, comme légère. On était chez les fous, l'espérance est la plus grande de nos folies. C'est d'Alfred de Vigny.
Oh non, mais là vous êtes philosophe, monsieur.
Ouais, écoutez, après avoir cité Clémenceau, il fallait quand même...
Je vais y réfléchir jusqu'à demain midi pour donner rendez-vous aux téléspectateurs. Merci et bon après-midi sur nos antennes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.